Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Je sais pas pour vous, mais moi, le matin, j'ai eu de la misère à avaler ma première gorgée de café en lisant le Journal de Montréal. Puis quand j'ai vu cette garderie, la garderie éducative, le petit monde d'Ananou, avec les photos qu'il y avait dans le Journal de Montréal, d'un milieu, je posais être un milieu de garde pour les enfants qui puisse être sécuritaire. On parle de coquerelles, on parle d'excréments de bestioles, on parle d'enfants négligés. Et pourtant, le gouvernement du Québec a toléré pendant des années cette garderie insalubre qui croulait sous les plaintes et les reproches. On en parle avec la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy. Bonjour, Mme Roy.
Bonjour.
Comment avez-vous réagi ce matin avec les photos qu'il y avait dans le Journal de Montréal?
Exactement comme vous. C'est-à-dire, c'est totalement inacceptable, c'est intolérable. On laisse nos enfants au service de garde, à la garderie le matin, pour qu'ils puissent être dans un milieu sain, dans un milieu épanouissant. Alors, c'est absolument inconcevable. C'est une garderie qui a eu son premier permis en 2012, qui a été renouvelée en 2017, et là, il n'a pas été renouvelé en 2022. Donc, vous pouvez être certaine qu'on va définitivement virer toutes les pierres pour trouver exactement ce qui s'est passé dans ce dossier-là pour que ça perdure, parce qu'il n'y a absolument pas question qu'on ait d'autres événements comme ça dans le futur.
La propriétaire de cette garderie, est-ce qu'elle a d'autres milieux de garde? Est-ce qu'elle a d'autres services de garde? Et va-t-on envoyer des inspecteurs pour s'assurer que ça ne se transforme pas de la même manière en des lieux insalubres?
À ma connaissance, non. Je sais qu'actuellement, elle a demandé pour réouvrir. Alors, évidemment, on tient compte de l'historique d'un service de garde quand il y a des demandes comme celle-là. Alors, mais il est clair que ce que l'on souhaite, dans ce cas-ci, vraiment vérifier ce qui s'est passé, pourquoi ces délais, pourquoi plainte après plainte, ça continue de fonctionner. Alors, clairement, il va falloir bien comprendre le pourquoi et surtout mettre en place ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas.
Madame Roy, vous le dites là, ça a tardé, on a tardé à agir, on a tardé à retirer le permis. Comment se fait-il qu'en 45 plaintes, 52 inspections depuis 2012, on est tardé, on ait eu autant d'années où on a supporté des coquerelles, des enfants attachés à des chaises, un ratio qui n'est pas respecté dans les salles de la garderie? Et c'est maintenant qu'on se réveille.
Ben, justement, de là l'importance de faire la lumière totalement.
Mais est-ce qu'il y a une enquête administrative?
Pardon?
Est-ce qu'il y a une enquête administrative?
Tout à fait. Et quand je vous dis, on va virer vraiment toutes les pierres. Il y a ce cas-là, on va vérifier s'il y a d'autres cas. Et qu'est-ce qui, dans le processus, justement, n'a pas fonctionné pour que ça cesse, pour qu'on n'ait plus des enfants qui vivent dans ces conditions-là. Donc, on va mettre en place les moyens nécessaires pour être plus réactifs.
2022, Mme Roy, novembre 2022, vous y venez d'arriver comme ministre de la Famille. Et c'est à ce moment-là, puis je ne sais pas si c'est vous qui avez pris cette décision-là, probablement pas, ça doit être la machine, de retirer le permis. Mais même quelques semaines avant, là, on parle de l'été 2022, la garde des enfants a été laissée sans surveillance à au moins deux reprises dans cette garderie-là. Qu'est-ce qu'il faut de plus que laisser des enfants sans surveillance pour le ministère de la Famille?
Je pense qu'on parlait au niveau des ratios, où on ne répondait pas aux ratios. Puis effectivement, c'est une exigence quand on est sous permis.
En fait, non, on parle d'enfants sans surveillance durant l'été 2022 à deux reprises.
Alors,
Il y a eu des plaintes pour ça et on a attendu le mois de novembre.
Oui, quand je vous dis que ça nécessite une enquête, là, puis de revoir nos façons de faire de A à Z, là, je pense que ça l'image bien. À quel point, justement, il ne doit pas avoir de tolérance. Jamais il ne faut que la santé, la sécurité de nos petits soit mise en cause d'aucune façon.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être responsable au niveau du ministère de la Famille de ce manque d'action, finalement, de cette indifférence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va, à qui on va dire, t'as pas fait ta job, tu restes pas là, tu vas être le responsable, tu vas devoir assumer tes responsabilités? Parce que quand arrive ces cas-là, on nous dit, on va faire une enquête, on va surveiller, on va s'assurer que ça se répète pas, mais il y a jamais personne d'imputable et de responsable.
On va d'abord vérifier exactement ce qui s'est passé pour voir effectivement où il y a des responsabilités, qu'est-ce qui s'est passé au moment de renouveler en 2017 alors qu'il y avait déjà eu plusieurs plaintes. Alors, pourquoi il y a eu ce renouvellement qui a été émis en 2017? Alors, pour vraiment s'assurer, et entre deux renouvellements, effectivement, quand il y a des plaintes, il va falloir resserrer les choses. Alors, on va enquêter pour ce qui s'est passé en fonction de ce qui était déjà prévu, mais il est clair que le processus, à mon avis, va devoir être revu, puisqu'on le voit là, les plaintes se sont accumulées et ça a pris un deuxième renouvellement refusé pour qu'on y arrive.
Combien il y a de personnes dans les listes d'attente pour des services de garde, Mme Roy? Je sais que c'est une question qui est un peu particulière parce que les chiffres dépendent, ça dépend comment on les voit.
Ben, je peux vous dire que ce qu'on avait dans les dernières données que j'avais en date du 31 octobre, il y en avait 32 359 qui attendaient une place pour le 31 octobre. Alors, on a évidemment aussi des gens qui s'inscrivent, qui vont vouloir une place dans 6 mois ou dans un an ou au moment où le congé de maternité va se terminer. Dans ce cas-là, il y en a à peu près 36 000, puis on a à peu près 55 000 places qui se libèrent par année.
Alors, grosso modo, combien...
On ne parle pas des mamans enceintes.
Alors, il y a beaucoup de personnes. Et combien
oui,
de...
définitivement trop.
On avait ouvert, quand Mathieu Lacombe était ministre de la Famille, il y a eu une ouverture, je pense que c'était un appel à projet, si je me trompe pas.
Oui,
un appel à projet pour l'ouverture de services de garde. Et ensuite, il y a eu une corvée de reconversion de places privées en places à subventionner. On en est où?
Oui. Alors, actuellement, on en a 29 000 qui sont en réalisation. De réaliser, on en a 8 400, en fait c'est 8 378, et on en a converti 3 500. Donc on en a 12 000 de places subventionnées supplémentaires depuis le grand chantier, et on en a 29 000 en réalisation.
Et depuis, combien on a fermé?
On a eu très peu de fermetures. Où on avait beaucoup de fermetures, c'était en milieu familial.
Oui.
Et au net, au niveau du milieu familial, on est à 3 763 places de plus. Alors, au net, là, si j'enlève les fermetures, là, donc là-dessus, on a réussi à arrêter l'hémorragie en mettant des initiatives en place. Et là, maintenant, on est dans le positif.
Est-ce qu'il va y avoir un nouvel appel de projet pour essayer de créer de nouvelles places?
Oui, on travaille beaucoup actuellement des projets de développement en communauté et en entreprise, donc qui sont très populaires, ce qui nous aide beaucoup au niveau du milieu familial. Bon, comme je vous le disais, il y en a à peu près 29 000 en réalisation, 8 000 qui sont réalisés, donc il reste là peut-être quelques milliers de places encore, et là, ça va être, on est vraiment à la marge là, parce qu'on va aller vraiment dans les milieux où on va voir qu'il reste encore des endroits, des places à combler pour atteindre en 2025-26 100% de notre réseau.
Suzanne Roy, ministre de la Famille, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bien, merci. Bonne journée.
Au revoir.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Pour un passionné de la politique américaine, c'est comme Noël, hein, Guillaume Lavoie. Tu dois avoir mal dormi cette nuit tellement que t'es excité puis que tu te peux plus, là. Joe Biden s'en vient chez nous.
Ouais, mais comme c'est pas mon premier rodéo, là. C'est pas la première visite. Alors, on est peut-être moins excité que la première fois, mais ça reste un moment très important. Puis il faut le reconnaître, là, c'est un bon coup pour le Canada. Avoir la disposition mentale du président des États-Unis, c'est quelque chose qui vaut très cher. Tous les pays voudraient ça. On est chanceux. On rencontre Biden au G7, au G20, à l'OTAN, les sommets des trois années grosses. Mais là, c'est Biden qui vient au Canada. Puis c'est pas juste sa personne à lui, là. Quand le président américain s'en va quelque part, imaginez la tonne de fonctionnaires et de dirigeants d'agences et autres qui doivent prendre en compte que là, le président américain, c'est au Canada qu'il est, donc il faut qu'il pense au Canada. Il faut que le Canada soit dans la tête, dans les préoccupations de l'ensemble du gouvernement américain. Et ça, ne serait-ce que ça, pour un pays aussi petit que le Canada, c'est un gain surdimensionné.
C'est assez... Est-ce que c'est un gain, oui, qui est important, mais on est loin de la bromance qui liait Justin Trudeau à Barack Obama?
Non, on n'est pas là. Moi, je suis pas sûr que...
C'est plus un amour filial qu'un amour fraternel.
Oui, puis là-dessus, à la fin, là, il faut voir, parce que c'est vrai que la première fois que Joe Biden est venu au Canada alors qu'il était sénateur, c'est un certain Trudeau qui était premier ministre. Alors peut-être qu'il trouve qu'on change pas tant que ça, ou peut-être qu'il se dit ah non, pas encore, là, je sais pas qu'est-ce qu'il en pense véritablement, mais une chose est certaine, Joe Biden connaît très, très bien le Canada. Quand il était sénateur, sa matière forte à l'école, son comité, c'était les affaires étrangères. Quand vice-président, c'était aussi quelque chose qui avait proche de son cœur. Alors là-dessus, on est chanceux d'un président qui connaît bien ça et qui s'aime passionnément ou autre. Quand on veut, c'est la bonne entente. Il y a eu des présidents, on en parlera, là, qui détestaient des premiers ministres et inversement. Ça, c'est jamais bon. Probablement que ce sera jamais autant que Brian Mulroney et George Bush père, ou Brian Mulroney et Reagan. Je dirais que ce soit bromance ou pas, je les vois pas, là, M. Trudeau et M. Biden, chanter une chanson ensemble. Là.
Non.
Ce qui a déjà été le cas avec Mulroney et Reagan. Mais il reste que c'est quand même intéressant. Puis là, il ne faut pas trop en attendre non plus. Oui, c'est une visite sur deux jours, mais le président américain arrive quand même à 6 heures ce soir. Alors, il est là. Puis là, ça va être intéressant parce que les deux vont avoir les mêmes mots à la bouche, mais ça ne voudra pas dire la même chose. Le Canada lui dit, moi, je veux qu'on parle en termes nord-américains. Hein, on disait « buy American », on pourrait-tu mettre « north » entre les deux. Dans le marché américain, on en a besoin. Les Américains aussi ont besoin des produits que le Canada a à vendre. Alors, il faut convaincre pas juste Joe Biden, les États-Unis de ça. Alors ça, c'est très important. Mais de l'autre côté, Joe Biden aussi va vouloir parler nord-américain, mais ça ne veut pas dire la même chose pour lui. Il veut parler de l'énergie, de la sécurité, que ce soit de l'espace aérien avec NORAD ou la sécurité de l'Arctique. L'Arctique, c'est le prochain lieu où il va y avoir un paquet de monde qui vont être là. Ça va devenir des routes maritimes extraordinairement stratégiques. Qu'est-ce qui va se passer si Vladimir Poutine, qui est juste l'autre bord de la rue, en allant vous regarder par le nord, décide que lui, qui a une vraie marine arctique, ce que le Canada a pas du tout, mais ce que les États-Unis ont pas assez, décide de s'imposer. Alors, probablement qu'on va se faire dire, écoutez, si vous voulez être des vrais partenaires nord-américains au niveau de la sécurité, il va falloir que vous en fassiez un peu plus. Fait que les deux vont parler en termes nord-américains, mais là-dessus, on parlera pas de la même chose en finalité.
Faut dire qu'on vivra probablement pas la dernière visite qu'on a eue avec Trump qui est passé en coup de vent dans un G7 et qu'avant de décoller dans son avion, il a envoyé un paquet de bêtises sur Justin Trudeau sur Twitter, là.
Non, alors probablement on peut se dire que ça peut pas être aussi pire, quoique des mauvaises visites. Par exemple, quand Nixon était venu au Canada, là je remonte, là, il se faisait crier « Nixon, go home ». Là-dessus, par exemple, une anecdote intéressante, Yasmine, qui demande peut-être de reconnaître là, une véritable admiration pour Pierre-Éliott Trudeau sur cet aspect-là. Alors, le président Nixon, ça se passe à Ottawa, et il y avait moins de sécurité à l'époque, et les deux sont en train d'entrer, je pense, au Parlement. Et là, il y a une gang de manifestants qui se mettent à crier « Nixon, va-t'en chez vous ». Et c'est Pierre-Éliott Trudeau qui se tourne et qui engueule les manifestants en disant « Vous prenez pour qui, là? Quand je vais aux États-Unis, il m'accueille comme le représentant du Canada, puis il se comporte de manière polie et respectueuse. Il dit, là, on reçoit le président américain. Saluez-le correctement, poliment. Montrez-leur l'accueil que le Canada est capable de faire. On a des désaccords, mais c'est pas une raison de traiter les gens comme... Et il se met véritablement, en anglais, on dirait lecture, à leur donner une leçon de savoir-vivre. Ce qui me déplaît pas vraiment. Alors, là-dessus, Nixon n'en était pas particulièrement offensé. De toute façon, Trudeau et lui se détestaient assez pour deux. Mais quand Bush était venu, W. Bush, que les Canadiens aimaient détester, il avait dit en partant, « Je veux remercier tous les Canadiens qui m'ont salué avec les cinq doigts de la main. » Alors là-dessus, ça dépend comment on prend ça. Mais des présidents qui se. Des couples qui saillissaient, Kennedy, Diefenbaker, tous les séparaient, leur approche, leur génération. Lyndon Baines Johnson et Pearson, Nixon, Trudeau, Reagan, s'aimaient pas beaucoup. Et là, il faut être capable de jouer avec ça. Là. Je vais raconter l'anecdote de W. Bush. Mais par exemple, Reagan vient parler devant le Parlement du Canada. Et ça, c'était véritablement, j'oublie le nom du député, là, mais une espèce de grossier personnage qui ne sait pas vivre. Pendant que le président américain, invité au Canada, parle dans le Parlement, il se met, pendant que le président Reagan parle, à l'insulter, à crier, comme une espèce de gros malfrat, là. Et le président Reagan fait comme si de rien n'était. Il dit, y a-t-il un écho ici, là? Et le fou rire général va forcer le député mal dégrossi à rentrer dans ses terres. Alors ça, c'est quand même des beaux moments, mais il faut reconnaître l'âge d'or des relations États-Unis. Le Québec est pire que les autres là-dessus. Le Québec, par exemple, était, Yasmine, la province la plus pro-américaine pour Clinton, et la plus anti-américaine sous W. Bush. Ce qui me rappelle que finalement, le premier ministre Laurier avait pas tort quand il disait « La province de Québec n'a pas d'opinion, elle n'a que des émotions. » Et c'est véritablement de cet ordre-là. Mais Kennedy, qui était une superstar, il y a 50 000 personnes qui étaient venues pour l'accueillir parce que tout le monde voulait voir lui, mais surtout comment Kennedy serait habillé. Il y a Reagan, Mulroney, on chante une chanson ensemble, mais des vraies amitiés profondes. Brian Mulroney et George Bush père. Jean Chrétien et Bill Clinton sont devenus de grands amis, véritablement. Et ça, ça reste important. Mais il faut jamais... Il est vrai qu'on peut penser, Yasmine, le pouvoir canadien à partir du bureau du premier ministre, mais il faut penser qu'aux États-Unis, très important d'avoir une bonne relation avec la Maison-Blanche.
Oui, évidemment.
Mais le Congrès est aussi important que la Maison-Blanche.
Sinon, parlons de Boris Johnson qui passe devant le comité des privilèges de la Chambre des communes. Il est passé hier, en fait.
Ouais, et là, Yasmine, je vais te dire, j'essaie toujours de regarder la politique internationale, de détacher. Après tout, le Royaume-Uni, c'est pas mon pays, c'est pas notre pays, c'est un premier ministre étranger. Mais j'ai un parti pris pour la vérité et j'ai un parti contre, de plus en plus acerbe, contre le mensonge. Et Boris Johnson, c'est le champion du mensonge. Dans toute sa carrière, là, il est véritablement le virtuose de la malhonnêteté. Et vous vous souvenez, pendant la COVID, il était premier ministre et il avait imposé, un peu comme partout, du confinement à la grandeur. Et pendant ce temps-là, il a fait des parties à la résidence officielle du premier ministre. Bon, pas des parties là, froufrou et tout, mais quand même. Et là, il y avait des photos de ça. Mais pendant ce temps-là, lorsque ça s'est mis à devenir une affaire réelle, devant la Chambre, il déclarait que non, il n'y en a pas eu de party, que c'est pas vrai, ça. Et que après ça, une fois qu'il y en a eu un, que toutes les règles ont été respectées. Et là, ben maintenant, Boris Johnson, qui est en train de perdre son bojo, comme on l'appelle, ben là, il est devant le comité de députés, le comité des privilèges, pour voir est-ce qu'il a menti à la Chambre, parce qu'il y a des endroits où c'est encore indéfendable. Et il a commencé sa prestation. Si vous voulez vous faire pogner les nerfs, vous fâcher, allez voir ça. La main, il dit, je viens vous voir la main sur le cœur. J'ai envie de dire, Seigneur, il y en a qui ne comprennent pas le sens des mots. Il faudrait y expliquer, là. Et là, de dire qu'il n'a jamais menti à la Chambre, je ne pense pas qu'il va convaincre les députés. Si jamais il était reconnu, bon, coupable, ou plutôt reconnu responsable d'avoir menti à la Chambre, il peut être suspendu de quelques jours. Bon, suspendu 9 jours, c'est pas bien grave, mais s'il est suspendu 10 jours ou plus, il s'expose à ce qu'il y ait une pétition de rappel. D'habitude, j'aime pas ça, ces choses-là, mais là, j'avoue que je me sens un peu complice. C'est-à-dire que les gens peuvent signer une pétition pour le débarquer de son siège. Et là, il y aurait une élection partielle. Malheureusement, je suis pas mal sûr qu'une élection partielle, Boris Johnson, l'homme de Teflon, serait probablement réélu. Mais il y a de nombreux politiciens, on le voit avec George Santos, qui a copié littéralement le modèle Trump ou le modèle Johnson. Mentir, ça marche tant et aussi longtemps que les gens le tolèrent. Et peut-être qu'on devrait revenir, je vais avoir l'air d'un vieux conservateur, peut-être que de dire que mentir, c'est quelque chose d'inacceptable en société et qu'il faut arrêter de tolérer comme « bon, ben finalement, ça servait ses intérêts, c'est pas si grave ». On a là un premier ministre britannique qui n'est même plus gêné de mentir effrontément et publiquement. Peut-être que ça démontre un véritable virus qui se transpose dans l'Occident et qui ne nous rend pas plus forts à la fin.
Ben, on dirait en effet que tant les Américains que les Britanniques, ben, ce n'est plus si problématique que ça de voir les politiciens puis les dirigeants mentir. C'est comme si ça faisait partie de la description de poste, puis on passe l'éponge là-dessus puis on n'a pas de problème. Ça commence à être pas mal triste de voir ça et ça nous rend tous cyniques devant la vie politique en général. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Au plaisir.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Vous écoutez
Yasmine Abdel Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
La rencontre.
Mais la job d'un chef, à un moment donné, c'est d'avoir un seul message.
Marie, mon petit.
Quand tu changes de voix tous les quatre heures.
Moi, je trouve ça absolument aberrant.
Steve Fortin.
On n'y va plus avec la compétence, l'excellence. Non, c'est plus ça.
La rencontre.
Mais Steve, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est exactement ça.
La rencontre. Fortin, mon petit.
Marie, Steve, à combien évaluez-vous la vétusité de nos écoles? Parce que, ben, on est dans des paris. De toute manière, faut pas croire les rapports qui sont officiels et qui sont faits par des professionnels. Et ça doit être parce qu'ils veulent de l'argent. J'ai l'impression d'avoir apporté un entrepreneur pour refaire mon toit. Puis quand il me donne le chiffre de combien ça va coûter, je vais dire, ouais, non, c'est pas vrai, là. T'sais, il est pas si mauvais que ça, mon toit. Là, mon toit, il est bon. Puis c'est juste pour se faire de l'argent. Est-ce que c'est raisonnable? Je commence avec toi, Marie.
Ben, écoute, tu sais, quand tu as des données qui font pas ton affaire, il y a deux façons de fonctionner. Il y a la première, c'est prendre acte de ces données-là puis te faire un plan d'action pour les améliorer. Puis tu as la deuxième qui est de remettre en question les données. Puis c'est pas mal ce qu'a fait le premier ministre Legault. Tu sais, c'est pas la première fois hein, je sais pas trop si réfléchi à voix haute. Donc là, finalement, ce qu'il dit, c'est que les données sur la vétusté des écoles, ben c'est faux. Tu sais, c'est pas mal ce qu'il dit. Tu sais, je comprends qu'il veuille remettre en question. Puis tu dis bon, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les dernières années? Comment ça se fait que l'indice de vétusté s'améliore pas? Mais tu sais, de là à affirmer que le portrait est faux.
C'est fou.
Basé sur aucune donnée, en plus, comme affirmation. Puis de pointer du doigt les centres de services qui, rappelons-le, ont été mis sur pied par la CAQ, puis les traiter de, je vais dire de menteurs, parce que j'ai vraiment de la difficulté à trouver un autre mot que ça. Là. Quand il dit il y a de l'enflure, c'est comme si les centres de services s'appuyaient vraiment fort sur le crayon pour dire les écoles sont tellement mal en point qu'il faut plus d'argent. Puis c'est comme une stratégie pour arriver à ça. Moi, je suis pas sûre que François Legault s'est fait bien des amis dans ces centres de services en allant faire ce genre d'affirmation-là.
Steve, non. Est-ce que le premier ministre réfléchit trop à voix haute?
Ben, on le connaît pour ça. Tu sais, j'ai l'impression que quand ça, ben, dans ce cas-ci, en tout cas, ça fait pas son affaire. On attaque le messager. On dit à Monsieur Jonathan Julien. Donc voilà, je veux que tu revoies ce processus d'évaluation, comme si les gens qui faisaient ce type d'évaluation-là, des entrepreneurs, des gens qui connaissent ça. Puis, tu sais, il faut avoir
collaborer, travailler auprès ou connaître des gens qui sont près de ce processus-là, que ce soit ceux qui réussissent à se qualifier pour faire les évaluations, par exemple, des compagnies de construction ou des évaluateurs, là, par exemple, ou encore au sein des commissions scolaires, parce que après avoir lu ça, j'ai contacté un ami à moi qui a été président d'une commission scolaire en Outaouais, puis je veux dire, tu sais, c'est une job quand même, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Puis c'est pas simple là, de tu sais c'est troublant un peu cette déclaration là de François Legault parce que c'est comme si on en appelait, c'est comme si on disait ben dans cette course là pour faire inscrire nos écoles dans le PQI, ben on a intérêt à noircir la situation, sauf que ça peut pas fonctionner comme ça. Non. Parce que une fois que les gens arrivent sur place puis regardent l'état des travaux, ben je veux dire il y a des pointages qui sont octroyés puis tu sais, c'est vraiment troublant de puis François Legault le sait, ça. Mais ce qui arrive, par contre, c'est que dans une MRC comme la mienne en région, quand on est dans les mêmes bâtiments puis que tu t'aperçois que le grand-père est allé dans la même école puis que, tu sais, on n'a pas changé, il y a eu des rénovations qui ont été faites avec le temps. Mais la vétusté, est-ce qu'elle vient aussi de par l'état très âgé de plusieurs des écoles, par exemple, dans une région comme la mienne? Puis on se dit, ben, il y a so much qu'on est capable de faire avec cette école-là puis ce bâtiment-là, mais on pourra pas tout rebâtir le parc des écoles en région puis même à Montréal pour plusieurs. Tu sais, fait que le parc lui-même, là, l'espèce de si on veut là, d'architecture de toutes les écoles au Québec, il y a beaucoup beaucoup de travail à faire. Puis c'est difficile de penser qu'on est capable de réduire ça si on n'investit pas plus dans l'infrastructure.
Mais il ne constitue pas. Tu sais, il me semble que quand François Legault sort publiquement puis il dit oh, je suis pas sûre, moi, de la vétusité de nos infrastructures d'éducation. J'ai l'impression que ça crée comme un obstacle supplémentaire dans le sens où non seulement il faut convaincre visiblement le gouvernement que c'est vraiment pas normal, mais en plus de ça, il faut les convaincre d'investir. On dirait que moi, je pensais qu'on en avait juste une seule étape, celle de les convaincre d'investir. Maintenant, on voit qu'il y en a deux, celle de leur faire prendre conscience du problème.
Je pense que l'objectif, c'est vraiment d'être capable de. Ils veulent des chiffres, là. T'sais, c'est un gouvernement qui. Oui, mais ils veulent des beaux chiffres, pas juste des chiffres.
T'sais, des chiffres qui leur disent qu'ils n'ont pas besoin d'investir.
Voilà. Donc, ils veulent des tableaux de bord qui sont intéressants. Ben non, je pense qu'ils veulent des chiffres qui vont démontrer qui ont amélioré la situation. C'est sûr que ça les écœure, là, de voir encore le pourcentage de vétusté. Mais Colin, c'est un parc...
On veut 50! On veut 50!
Ouais, c'est ça! Ça fait pas leur affaire. Donc, tu sais, François Legault, on l'a déjà vu, là, tu sais, on se rappelle la fameuse une de journal où il disait « On va remplacer les gens qui pensent pas comme nous. » Ben là, c'est la suite de ça, c'est « On va remplacer les chiffres qui font pas notre affaire, tu sais. » Puis Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, qui vient en ajouter, ça ressemble un peu à ton exemple que tu donnais tantôt, Yasmine, quand tu dis « Ouais, moi... » Puis tu sais, gros gens comme devant, là, tu sais, il dit « Moi, je suis rentré dans des écoles qui étaient classées E, puis là, je m'attendais à ce que le toit s'effondre sur moi. » Puis finalement, c'est vraiment pas si pire. Attends, excuse-moi, là, t'as-tu tes cartes d'entrepreneur, je le savais pas, ou t'as un bac en génie de la construction, puis je le savais pas, parce que tes yeux bioniques t'ont peut-être permis de voir qu'il y avait de l'amiante derrière le mur qui est devant toi, ou que, tu sais, qu'il y a un enjeu d'infrastructure, de structure du bâtiment. De qualité de l'air et compagnie. Donc, tu sais, voir que tu rentres quelque part et tu dis, ouais, non, ça a l'air bien correct puis ça devrait pas être classé. Excuse-moi, peux-tu t'en tenir, Bernard, s'il te plaît, à ta job de ministre de l'Éducation?
Il va dire, lâchez-moi avec la vétusité, là, comme lâchez-moi avec ça, un peu comme lâchez-moi avec les GES. Regardez, là, on est comme une bande d'ingrats qui voyons pas à quel point le gouvernement a investi puis a tellement fait mieux puis on veut pas regarder les améliorations qui se font. Moi, c'est comme ça que je l'entends dans mes oreilles.
En tout cas, il y a une chose, c'est que ils sont beaucoup, beaucoup... on voit ce gouvernement-là veut des résultats puis il aime les tableaux, il aime quand il est capable de présenter les choses de manière, tu sais, succincte, facile à comprendre. On avait dit ça, on est rendu là, puis... Est-ce dire qu'au Québec, en ce moment, on va être capable, par exemple, de rénover un parc qui est vieillissant comme ça, puis qui a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'amour, puis dire on va arriver à 50%, c'était peut-être que la bouchée initiale était trop grande à prendre. Puis je le vois par les discussions que j'ai avec les gens qui sont dans les écoles ici dans la MRC, parce que j'en ai eu souvent en entrevue, puis que ce soit les directions d'école et tout. Puis je veux dire, tu sais, c'est un défi tout le temps. Mais c'est un défi ici, c'est un défi ailleurs dans bien des régions. Puis moi, je pense qu'on serait beaucoup mieux, le gouvernement serait beaucoup mieux servi s'il acceptait de donner un portrait juste, puis qu'il s'en remettait finalement aux gens, puis que plutôt que d'être débonnaire ou plutôt que d'être François Legault une fois de temps en temps un peu agacé par les chiffres, le François Legault qui dit « ben je prends acte, puis savez-vous quoi, il recule un peu, il recule ou il prend un pas de côté, ben peut-être que c'est une trop grosse bouchée, puis on comprend ça, puis on va mettre les bouchées doubles. » Ça, c'est le genre de François Legault qui réussit à faire généralement un peu plus consensus.
Oui, et maintenant, on a aussi une nouvelle qui est sortie hier en fin de journée qui est assez importante. Il y a un record démographique qui est en train d'être enregistré. L'immigration aurait permis d'augmenter la population canadienne de plus d'un million de personnes, une augmentation de 2,7%. Et ça, c'est une mesure entre le 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. Steve, c'est assez... Est-ce qu'il faut voir ça comme une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Ben, premièrement, si on le regarde du point de vue de la capacité d'accueil, de la pression sur les services, du réel impact sur la pénurie de main-d'œuvre, parce que chaque personne qui vient va peut-être occuper un emploi, mais va commander toujours plus de services. En tout cas, moi, j'ai des gros doutes par rapport à ça, mais me vient toujours en tête l'initiative du siècle, le Century Initiative, d'un groupe, d'un think tank là qui est pro-immigration, qui est très proche du Parti libéral du Canada. Puis ces gens-là ont concocté une espèce de stratégie qui semble plaire aux libéraux et laquelle on met en place, mais de façon beaucoup trop rapide et surtout sans jamais que cela n'ait fait débat dans la population canadienne. Et ce que je vois depuis 24 heures, par exemple au Canada anglais, chez certains commentateurs, et pas tous des commentateurs de droite, on se dit, ben tabarnouche, ça va vite. Puis n'oublions pas une chose, hein. François Legault avait fait un pari, puis il disait, ben nous, on vise une cible de 50 000 par année. Bon, Gabriel Nadeau-Dubois, oh mon Dieu, il disait 80 000, on est à 300 000. Puis c'est insoutenable. Je sais que c'est probablement ponctuel tout ça, mais en ce moment, je veux dire, pour le Québec et pour le Canada, on va trop vite, puis à un moment donné, ben il va y avoir des conséquences. Puis on a vu Doug Ford hier, hein, d'ailleurs, qui disait par rapport au chemin Roxham, parce qu'on va en parler, je vais laisser Marie aussi en glisser un mot, mais qui disait, ben nous, là, déjà, on a des maires de villes qui sont quand même substantielles, on ouais. les connaît, comme Niagara Falls, qui disent déjà, après quelques milliers ou quelques centaines, on peut plus imaginer pour le Québec. Donc, ça va trop vite. Puis surtout, ça n'a pas fait l'objet d'un débat public et d'une élection. Tout ça, moi, ça prendrait ça au minimum.
Mais on parle aussi d'une forte augmentation de l'immigration temporaire, pas de l'immigration permanente, donc des travailleurs temporaires qui viennent prêter main forte pour des domaines bien précis, qui peut-être, si à la fin de leur emploi ou la fin d'une certaine période donnée décident de rester, ils vont devenir des immigrants permanents. Mais a-t-on le choix et peut-on faire fi de ces bras et de ce cerveau qui viennent nous aider alors qu'on a une pénurie de main-d'œuvre très, très importante, Marie?
Mais si tu parles spécifiquement des travailleurs temporaires, oui. Non, on peut absolument pas s'en passer, pas du tout, du tout. Puis tu sais, on le voit par exemple en agriculture, c'est un besoin plus que nécessaire. Puis tu sais, si je te donne un exemple très concret, au début de la pandémie 2020. Ça a été, moi, j'étais porte-parole, juste au début, j'étais porte-parole justement en agriculture à l'Assemblée nationale, puis ça a été un des enjeux avec le ministre de l'Agriculture qu'il a fallu qu'on travaille très rapidement, parce que comme les frontières étaient en train de se fermer partout, d'aller chercher, comme il se fait normalement, ces travailleurs-là qui viennent, tu sais, dans les champs notamment, faire les récoltes et tout, c'était un enjeu, et là, c'était panique-ville chez les agriculteurs, puis avec raison. Donc là, il a fallu travailler là-dessus, mais non, s'ils sont pas là, c'est des milliers de récoltes qui se font pas, c'est des milliers d'agriculteurs qui se retrouvent vraiment dans des situations très complexes. Ça, c'est absolument, absolument nécessaire. Puis même, tu sais, il y a encore des enjeux sur la pérennisation de ces travailleurs-là, sur leur accueil. Mais bien sûr qu'on en a besoin. Et puis c'est souvent du travail aussi, moi, pour en avoir discuté souvent avec eux. Tu sais, c'est du travail que, malheureusement, ils ont de la difficulté à recruter des travailleurs québécois locaux, pour faire ce travail-là.
Absolument.
Ouais, c'est du travail qui est extrêmement dur. Puis tout le monde est un peu gagnant-gagnant là-dedans, parce que pour les travailleurs, justement, étrangers qui viennent passer un été ici, c'est une rémunération qui est super intéressante pour eux. C'est des conditions qui sont intéressantes de façon générale aussi. Mais non, on peut pas s'en passer, absolument pas. Là.
Parlons de ce député. Moi, je trouve que l'histoire est fascinante. Là. Je ne sais pas si pour vous, mais j'ai l'impression de lire un roman policier de l'ingérence de la Chine sur les élections canadiennes. Puis là, on apprenait hier, dans le coup de 17-18 heures, que Global News avait deux informations, deux sources anonymes du renseignement canadien, c'est important de le noter, qui soutiennent que le député de Don Valley North, Han Dong, le même qui était déjà visé par des suspicions quant à ses liens avec le régime chinois, ben il aurait eu des communications avec le consul chinois lui disant que il valait mieux retarder la libération des deux Michael parce que une libération précipitée pourrait aider le Parti conservateur. Il a dû démissionner séance tenante hier du caucus libéral. Il a pas il s'est pas retiré comme député là, mais plus que au caucus libéral. Est-ce qu'il devrait tout simplement partir parce qu'aujourd'hui, c'est un peu malaisant de l'avoir à la Chambre des communes. Je commence avec toi, Steve.
Non, il n'y a pas à partir. Il a le droit à la présomption d'innocence. Premièrement, par rapport au travail de Global. Il faut faire une distinction, puis on est dans le domaine des médias, nous savons ça, mais il faut le répéter tout le temps, entre sources anonymes et sources dont on connaît l'identité, mais dont il faut taire l'identité. Puis, manifestement, il y a des gens au SCRS qui ont le goût ou qui trouvent qu'ils ont intérêt à parler. Peut-être que dans certains cas, on va dire que c'est même des lanceurs d'alerte parce qu'ils ont peut-être essayé par des canaux conventionnels, puis ça bouge pas, puis là, on est forcé de faire ça. On avait vu ça aussi dans le cas de la commission Charbonneau. Il y a des gens qui avaient décidé de parler aux médias pour essayer de faire avancer des enquêtes dont ils trouvaient qu'elles n'avançaient pas assez vite. Maintenant, j'invite les gens, ça se trouve assez facilement là, sur tous les réseaux sociaux, la très bonne émission Power and Politics de CBC sur le réseau Twitter, par exemple, ça dure 4 minutes 28 à 9h30 quelques hier soir. Han Dong se lève, il n'y a plus grand monde qui sont là, mais les gens qui ont été là, quand on écoute son plaidoyer, c'est un plaidoyer, c'est littéralement ça. Il s'explique, puis il dit, non, c'est pas ça. Puis à la fin, il dit qu'il va protéger sa famille parce qu'il est sous le feu, là, depuis... il fait partie des 11 députés dont on dit qu'ils sont d'origine sino-canadienne qui ont été visés par le régime chinois. Donc, ça doit pas être facile. Toutefois, il y a une chose qui est certaine là-dedans, c'est qu'il n'a pas averti le bureau du premier ministre alors qu'il est allé voir le consul. Au mieux, là, c'est vraiment une très, très grosse gaffe. Puis au pire, si ça s'avère, on est dans le domaine presque de la trahison. Mais n'allons pas là tout de suite, parce qu'il a le droit à la présomption d'innocence et manifestement, il s'est retiré. Pourquoi? Parce que demain, il y a une personne qui vient qui est très importante. C'est une visite, probablement la visite la plus importante en sol canadien pour le premier ministre du Canada. Puis deuxièmement, lui, il veut tout simplement pas être une distraction, donc il fallait qu'il se tasse, mais il a le droit à la présomption d'innocence.
Mais la présomption d'innocence, évidemment, c'est notre état de droit, puis c'est important, puis il l'a. Oui. Mais il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'enquête, le gouvernement refuse de déclencher une enquête. Jusqu'à quand va-t-on continuer à dire, il est innocent jusqu'à preuve du contraire, puis à essayer de dissiper les doutes quand on ne peut pas réellement faire la lumière sur ce qu'il a pu faire, de ce qu'il n'a pas fait?
Non, mais c'est justement, ça vient s'ajouter comme élément pour justifier, confirmer qu'une enquête est nécessaire. Parce que, tu sais, c'est un autre... C'est vrai qu'on dirait une espèce de roman de Michael Connelly.
Ah, c'est incroyable!
C'est un roman politique, puis là, c'est un autre incident qui
genre,
vient...
Chaque jour, t'as deux pages.
Ouais, complètement. Écoute, le roman s'écrit tout seul, là. Je pourrais dire c'est captivant si c'était pas aussi inquiétant pour notre démocratie. Mais non, moi, je pourrais jamais... sais, suggérer et dire qu'un député dans cette, un élu dans cette situation-là devrait se retirer parce que je crois fondamentalement que dans notre démocratie, la présomption d'innocence doit être protégée et malheureusement, elle est trop souvent écartée dans le contexte actuel là, du cancel culture et compagnie. Oui. Mais ça vient renforcer le fait qu'il faut qu'il y ait une enquête. C'est plein d'éléments qui s'ajoutent et auxquels ça vient amener de la suspicion, ça vient soulever oui. des questions. Mais à un moment donné, il va falloir aller au bout de tout ça. Là.
Nos
alliés vont se demander qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Il faut penser aussi le présent et le demain. Ouais.
Évidemment, l'image que l'on projette est très importante également. Marie, Steve, merci beaucoup. On se retrouve demain.
À demain.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
Si vous vous demandez comment se débarrasser d'un proprio qui s'acharne sur nous, qui nous harcèle, qui nous mène la vie dure, vous savez pas comment faire, ben on y a un couple de propriétaires que ça leur a pris 6 ans pour venir à bout de leur proprio acharné, mais ils ont réussi à le faire déclarer quérulant et de mener la bataille juridique avec lui qui était en train de leur pourrir la vie. On a avec nous Olivier Grondin, ce locataire montréalais qui était en litige depuis plusieurs années avec son propriétaire. Bonjour, Monsieur Grondin.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se débarrasser d'un proprio? Une maîtrise en droit, beaucoup de persévérance, beaucoup de temps ou toutes ces réponses?
Toutes ces réponses, éventuellement aussi beaucoup de chance d'avoir un réseau qui donne beaucoup de support. Oui, c'était une aventure intense. On a eu la chance d'avoir... c'est un peu... pour nous, c'est une victoire, mais il y a un côté où, pour moi, il y a quand même un aspect qui est triste dans tout ça parce que je suis bien conscient du fait que j'ai une maîtrise en droit. On a eu plusieurs cabinets d'avocats qui nous ont appuyés bénévolement dans le dossier. Et malgré tout ça, ça a pris 6 ans. C'est un parcours qui est lourd.
Et vous vous présentiez seul, donc pour la moyenne des ours qui n'ont pas d'avocat, qui n'ont pas de maîtrise en droit et qui ont à se défendre avec un avocat, 6 ans de procédure juridique, ça peut coûter cher.
Oui, non, définitivement, c'est un truc que si j'avais pas été capable de le faire moi-même une bonne partie, on a été représenté quand même dans certains dossiers, mais oui, si j'avais pas été capable d'être... justement, pour la plupart des audiences, c'était moi qui me représentais. Si j'avais pas, justement, ces connaissances-là, c'est un truc que n'importe quel locataire aurait été en faillite ou aurait juste pas pu continuer à se défendre.
Est-ce que vous avez hâte qu'ils finissent par vendre l'immeuble dans lequel vous habitez?
Pour être franc, j'ai un peu peur. C'est quand même dans les choses qu'on voit, puis je travaille souvent avec des comités logements, on voit souvent les changements de propriétaires, c'est des moments où il va y avoir des reprises et tout ça, puis nous, autant on aime notre logement, autant si quelqu'un veut venir, puis achète l'immeuble, puis que c'est honnête, sa démarche, ben, c'est sûr qu'on comprend ça. T'sais, nous-mêmes, on adore le quartier, ça fait que ça va être un choix déchirant qu'on anticipe. Ou une option déchirante qu'on anticipe. J'ai hâte, j'espère avoir un propriétaire, que le prochain propriétaire, on puisse avoir une bonne relation, puis on puisse travailler ensemble. Là. Dans ma tête, c'est ça l'idéal dans la relation avec. C'est d'avoir des saines relations, collaborer, puis.
Eh bien, on vous le souhaite, M. Grondin. On vous le souhaite à vous et à votre petite famille. Bravo pour votre combat. Vous avez eu gain de cause et c'est parce que vous vous êtes battu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben, ça fait plaisir. Merci à vous d'en parler. J'espère que d'autres personnes vont trouver le courage de se motiver pour faire valoir leurs droits et essayer de se défendre.
Espérons. Merci. Au revoir.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Le patronat et le gouvernement ne semblent pas être en train de vivre une grande histoire d'amour. On dirait que le premier ministre a une crotte sur le cœur envers le patronat, le conseil du patronat. Et on a entendu ce matin, en période de questions, le premier ministre faire allusion au président-directeur général du conseil du patronat du Québec, Carl Blackburn. On écoute l'extrait.
Madame la Présidente, le chef du Parti libéral nous parle de Carl Blackburn. Je ne sais pas s'il va se présenter à la chefferie du Parti libéral, mais ce qui est important de comprendre...
Et on a Carl Blackburn avec nous. On va lui poser la question. Monsieur Blackburn, allez-vous vous présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec?
Comme je l'ai fait depuis déjà plusieurs mois, j'ai démenti la rumeur à l'effet que je me porterais candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. J'ai été en politique, c'est derrière moi, et maintenant, ma priorité, c'est le Conseil du patronat du Québec, c'est les employeurs du Québec, et pas plus tard que mardi matin. J'ai encore une fois, suite à un article de journal qui est apparu dans la presse, contacté le bureau du premier ministre pour une fois de plus nier la rumeur et reconfirmer à l'effet que je continuerai de collaborer avec le gouvernement et que ma priorité était celle des employeurs du Québec.
C'est assez rare de voir un gouvernement qui semble aimer l'économie, vouloir être le gouvernement de l'économie, tourner le dos et entretenir des relations aussi conflictuelles avec les groupes d'intérêt économiques, que ce soit la Chambre de commerce de Montréal métropolitain ou le Conseil du patronat. Pour quelles raisons s'il y a ces relations tendues entre le patronat et le gouvernement Legault? Est-ce que c'est à cause de vous ou à cause du patronat?
Ben, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans un contexte de totale incertitude qui est devant nous, récession qui est à la porte du Québec, la spirale inflationniste dans laquelle on se retrouve et surtout la grave pénurie de main-d'œuvre qui a des conséquences économiques importantes pour l'économie du Québec, ce n'est pas mon parcours professionnel qui devrait être la priorité du gouvernement, mais davantage l'économie. Et lorsqu'on voit des réactions comme on l'a vu ce matin et comme on le voit à l'occasion lorsque le gouvernement est un peu critiqué ou des fois on remet en doute certaines positions qu'ils avancent, ben il faut qu'on soit capable de prendre cette critique. Et ce qu'on constate, c'est que malheureusement, ça devient comme un jeu de politique de mettre le patronat ou les employeurs dans un côté et les travailleurs de l'autre, alors qu'on devrait plutôt travailler en étroite collaboration, tous ensemble, pour relever les défis qui sont devant nous. Alors malheureusement, on assiste encore souvent à des jeux de politique, si je peux le dire ainsi, mais malheureusement, ce n'est pas bien servir les intérêts du Québec actuellement, surtout avec ce qui est devant nous.
Faut dire que le conseil du patronat dans les derniers mois est beaucoup sorti publiquement pour soit contredire le gouvernement, soit faire pression dans des directions dans lesquelles le gouvernement ne veut pas aller. Je m'explique. Le volume d'immigration. Là, on a parlé de la baisse d'impôts. Le conseil du patronat s'est prononcé contre la baisse d'impôts. Qui aurait cru qu'un jour le patronat allait dire non, baisse d'impôts? Il y a différents sujets sur lesquels vous vous entendez pas avec le gouvernement. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que le conseil du patronat et le gouvernement Legault ont pris des chemins, disons, assez loin l'un de l'autre?
Il faudrait poser la question au gouvernement, au premier ministre lui-même, parce que de notre côté, il n'y a aucun enjeu sur ces aspects-là. Et c'est normal et même sain qu'on puisse être des fois différent ou avoir des points de vue différents. Vous me faites référence à deux éléments qui parlent de l'immigration et des baisses d'impôts. D'abord, ce qui nous a toujours guidés dans nos positions, c'est d'une part ce que sont les besoins des employeurs au Québec, de quelle façon on peut arriver à mettre un environnement économique qui soit prospère et qui puisse permettre à la société québécoise de grandir, mais également de maintenir les services publics comme on le fait et comme on est capable de le faire au Québec. Alors, c'est pour cela que sur l'enjeu de l'immigration, on s'est basé sur des faits et des chiffres. Et on a pris les chiffres du gouvernement du Québec lui-même à l'effet que nous devions pouvoir remplacer 1,4 million de travailleurs d'ici 2030. Et ça, ce n'est pas les chiffres du Conseil du patronat. C'est les chiffres du gouvernement. Alors, pour pallier à ces besoins de main-d'œuvre, le gouvernement mentionne dans ses documents que 50 % des besoins seront comblés par les étudiants, que 25 % des besoins seront comblés par ceux qui sont un peu plus éloignés du marché du travail, les Premières Nations, les femmes dans certains secteurs, les travailleurs expérimentés de 60 à 69, bien évidemment, l'immigration. Et 22 % des besoins, eux, doivent être comblés par l'immigration. Oui. Le chiffre correspondant aux 22 % en 2017 était de 64 000 immigrants par année. Malheureusement, nous n'avons jamais dépassé le seuil de 54 000 depuis 2017 et c'était bien en deçà des objectifs que fixait lui-même le gouvernement, d'où la sortie que nous avons faite, que nous devrions rehausser les seuils d'immigration, non pas à 64 000, mais à 80 000, simplement pour pallier au départ des gens à la retraite d'ici 2030.
Mais vous avez la même position que Québec solidaire sur les chiffres d'immigration. C'est assez particulier que vous partagiez la même position que Québec solidaire sur l'immigration et sur la baisse d'impôts. Le temps file et j'aimerais vous poser la question suivante, M. Blackburn. Êtes-vous intervenu en faveur d'un député d'un parti politique quelconque durant les dernières élections?
Ben, tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le faire lors de ma tournée l'année dernière dans les régions du Québec, où j'ai personnellement soutenu le candidat de la CAQ dans le comté de René Lévesque, mon bon ami Yves Montigny. Et je l'ai fait publiquement, je l'ai fait privément. Et Yves, maintenant, est élu à l'Assemblée nationale et je suis bien content pour lui parce que c'est un excellent député. Alors, mon parcours professionnel politique est derrière moi. Maintenant, la priorité pour le Conseil du patronat, c'est l'environnement économique du Québec, la prospérité économique du Québec. Et on ne doit pas laisser la partisanerie politique jouer un rôle important sur ces enjeux-là qui risquent de nuire malheureusement à l'économie du Québec.
Monsieur Blackburn, vous dites que la politique est derrière vous. Si un jour elle se repointe le nez devant vous, revenez nous voir et racontez-nous ça. Carl Blackburn, président du Conseil du patronat, merci beaucoup.
On aura d'autres occasions. C'est un plaisir. Merci de l'invitation.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877-CUBE-RADIO.
Cube Radio.
Autrement dit, la nouvelle radio numérique.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Au courant des allégations.
Bon, alors, on entendait donc la question de Jack Meeting, chef du NPD. Vous reconnaissez Yasmine Abdel-Fadel. Elle est dans les studios de Cube Radio. On va prendre la balle au bon, Yasmine, pour parler de cette nouvelle information, là, une tuile, pourrait-on dire, qui alimente la demande de l'opposition d'une enquête publique sur cette affaire. Le député Han Dong de Don Valley North, qui s'est retiré du caucus libéral, des informations de Global News, font état d'un lien assez étroit avec le consulat chinois à Toronto. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus?
Sylvain, tu disais que c'était une tuile. Moi, j'appellerais ça un camion de tuiles qui continue de s'abattre sur le gouvernement Trudeau, parce que ce qu'on apprenait hier de manière fracassante, c'est que le député Han Dong, le député de Don Valley North en Ontario, a eu des discussions avec le consul chinois. Selon deux sources anonymes de Global News, du service de renseignement canadien, il aurait dit à ce consul qu'il faudrait retarder la libération des deux Michael parce que ça pourrait aider les conservateurs. Alors, on retarde la libération de deux citoyens canadiens emprisonnés et croués dans les prisons chinoises de manière arbitraire et complètement injuste pour des raisons politiques partisanes au Canada. Ça, pour moi, c'est s'il y avait on cherchait un exemple, on ne peut plus patent des raisons pour lesquelles il faudrait une commission d'enquête libre et indépendante pour mettre la lumière et faire la lumière sur comment la Chine peut avoir des implications sur nos décisions et sur notre démocratie, c'est bien le cas. Je ne sais pas ce que le gouvernement pourra donner comme excuse et comme justification qui puisse se tenir face à cette question. D'autant plus qu'on apprend que là, lui, il se défend, il dit « Ben non, j'ai rencontré le consul, mais c'était pour lui dire qu'il fallait libérer les deux Michael. » Présomption d'innocence, évidemment, on ne peut pas l'accuser si on n'a pas de preuves, mais toujours est-il que le premier ministre du Canada disait il y a à peine un mois « Han Dong est un membre extraordinaire de notre caucus. » Tout doute sur sa probité et sur son intégrité devrait être écarté. Ça, c'est le premier ministre qui disait ça. Ouais. Ça vieillit mal comme déclaration.
Mais en même temps, Yasmine, il y a comme une incongruité, là. Je dirais même une logique qui manque dans ce dossier-là, là. Un mystère. Bon, Global News sort d'y avoir deux sources qui confirment que le député en question aurait demandé de retarder la libération des deux Michael. Mais c'est le gouvernement libéral qui est au pouvoir à ce moment-là.
Évidemment.
Comment ça aurait pu, évidemment, cette libération jouer en faveur de l'opposition? J'ai de la difficulté à m'expliquer ça.
C'est le morceau de puzzle qui manque pour beaucoup de personnes pour se dire... Comment les conservateurs pourraient tirer la couverture sur eux en libérant les deux, Michael? Est-ce que c'est parce qu'ils vont pouvoir démontrer que les conservateurs vont remettre la Chine à l'avant-plan? Ils vont continuer à appeler le gouvernement à durcir le temps avec la Chine? Or, une libération des deux Michael pouvait permettre un certain adoucissement des relations où on va être moins à cran l'un avec l'autre. J'essaie de me l'expliquer, moi, cette raison-là, cette justification, et je n'arrive toujours pas à trouver quelque chose qui puisse se tenir. Mais c'est à Anne Dong, dans le cas d'une commission d'enquête libre et indépendante, qui puisse être mise sur pied par le gouvernement rapidement, qui va venir devoir expliquer ça, ou d'autres experts qui vont devoir venir expliquer ça.
Et en passant, il dit que ces informations sont fausses lorsqu'il a annoncé son retrait. C'est un plaidoyer très, très, très émotif qu'il a livré. Il plaide son innocence et attend les résultats de l'enquête. Bon, on verra. Il y aura des développements assurément au cours des prochains jours. Yasmine, autre dossier, je voudrais t'entendre sur cette garderie insalubre de Mascouche, là. Des dizaines de plaintes, des inspections là, par dizaines aussi, qu'on a toléré finalement pendant 10 ans.
On a toléré littéralement une garderie insalubre où nos enfants étaient en danger. Puis vous voyez les images, là, c'est absolument dégueulasse, Sylvain. Là, tu sais, des coquerelles. On parle d'enfants attachés. On parle à deux reprises, l'été dernier, là, l'été 2022, où des enfants avaient été laissés sans surveillance à deux reprises en 2022. Et on a mis fin aux opérations de cette garderie-là qu'en novembre 2022. Pourquoi cette indifférence? Pourquoi ce laxisme? Les enfants ne sont-ils pas la prunelle de nos yeux? Puis que finalement, s'il y a des milieux de vie, parce que les enfants passent près de 10 heures par jour dans une garderie qui soit insalubre, où la nourriture est infecte, où c'est pas sécuritaire, où le personnel n'est pas formé, finalement, n'est pas qualifié pour s'occuper des enfants, comment se fait-il que le ministère puisse permettre à des garderies d'opérer pendant aussi longtemps? J'ai parlé avec Suzanne Roy également. Elle veut faire la lumière là-dessus. Mais moi, au-delà de faire la lumière, est-ce qu'on peut développer une petite culture d'imputabilité au sein de nos responsables dans notre fonction publique? Qui a reçu ces 45 plaintes sans rien faire? Qui est parti faire l'inspection sans commander une fermeture rapidement de ce service de garde? Et qui va prendre les responsabilités de ce manque d'action qui a duré pendant 10 ans?
Et contrairement au dossier Airbnb, dans ce cas-là, sur les garderies, il ne manquerait pas d'inspecteurs, Yasmine. C'est ce qu'on a appris de la bouche de la ministre.
Il manque juste des décisions.
Merci, Yasmine.
Merci, Sylvain. Au revoir.
Au revoir.
Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30.
Cube Radio.